La parole ne pourrit jamais, Florence Achressou. Suivez l'émission La Vigueur littéraire de Enoch Guidjimé sur Éducation tous les jeudis à partir de 15h.
La Vigueur littéraire.
La Vigueur littéraire. La Vigueur littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigueur littéraire,
c'est sur la web radio
Éducation.
Mesdames et messieurs, amis et fidèles internautes de la web radio Éduque Action, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires, bonjour et bienvenue dans votre émission La Vigueur littéraire de ce jeudi 9 avril 2026. Au Bénin, il existe dans les rayons des librairies des livres pour enfants. Et s'il existe des livres pour enfants, c'est qu'il y ait des auteurs qui travaillent à donner vie à ces livres. Une manière pour créer une connexion entre les enfants et la lecture. L'écrivain français Victor Hugo ne dira jamais assez, je cite, « aux petits-enfants donner de petits livres ». Ainsi, chaque 2 avril de l'année est célébrée la Journée internationale du livre pour enfants. L'objectif est d'encourager l'amour de la lecture chez les enfants. Pour l'édition 2026, l'accent est souvent mis sur le plaisir de lire et l'imaginaire, notamment autour du thème des animaux fantastiques. En lien avec ce thème, nous allons porter votre attention sur les animaux fantastiques dans la littérature jeunesse. Pour ce faire, nous avons invité pour vous une spécialiste de la littérature jeunesse. Elle a pour nom Béatrice Lalinon-Guado. Elle est docteur en psychologie sociale. Mais avant, nous allons suivre le cachet littéraire. C'est avec Christelle Abaye. Christelle, bonjour.
Bonjour Enoch.
Comment vous allez?
Je vais très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on retient?
Passionné de l'appelement et usager du verbe, soyez les bienvenus dans ce numéro du cachet littéraire. Les muses ont inspiré, les plumes ont laissé leurs traces à travers l'encre et les voix ont résonné. La Takora Donga sera en effervescence avec le livre « Dans les limbes » de Florent Hundja, Grand Prix littéraire du Bénin 2023, demain vendredi 10 avril à partir de 9h au centre public de Badjoudé, puis le samedi 11 avril à 9h à la bibliothèque départementale de Natitengu. Soyez de la partie pour explorer l'univers fantastique de ce chef-d'œuvre avec son auteur. Aussi, la cité des Koburu accueillera-t-elle la première édition du Festival du livre de Parakou. Les candidatures sont attendues jusqu'au 20 avril. Ne vous faites pas prier. Dans cette même dynamique de promotion littéraire, la deuxième édition du prix Béranzine est déjà lancée. Vous avez jusqu'au 30 juin pour faire partie de cette aventure inoubliable. L'objectif demeure le même, promouvoir la culture africaine à travers les livres et révéler les jeunes talents de chez nous. Pour cette édition, aucun thème n'est imposé. Néanmoins, des instructions ont été données. Merci pour votre fidélité et surtout, demeurez passionnément littéraire.
Merci Christelle, merci pour ce travail. Je l'avais annoncé, les animaux fantastiques dans la littérature jeunesse est le cœur de ce numéro de votre émission. Avant d'aller dans les détails, écoutons ceci.
Voulez-vous offrir une plateforme de visibilité nationale et internationale à toutes les initiatives du secteur de l'éducation? Optez pour le multimédia Éducation.
Éducation, votre partenaire privilégié pour toutes vos activités communicationnelles et couverture médiatique.
Retour en studio pour mettre le curseur sur les animaux fantastiques dans la littérature jeunesse. Docteur Béatrice Lalinon-Guado est notre invitée. Écrivain, spécialiste de la littérature jeunesse, elle est également psychologue sociale et conseillère en technique de mieux-être de la communication. Madame Béatrice, bonjour.
Bonjour Enoch.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le 2 avril passé est consacré à la Journée internationale du livre pour enfants. Vous êtes du milieu. Comment vous l'avez célébré à votre niveau?
À mon niveau personnel, ainsi qu'avec les acteurs avec lesquels nous collaborons souvent, cela a été une journée de réflexion autour de la créativité. Notre créativité interne pour voir ce que nous apportons ou que nous nous apprêtons à mettre sur la place publique. En quoi est-ce que c'est en adéquation avec la finalité de notre maison et avec la fibre, la sève qui nous est propre au niveau culturel?
Alors, de façon concrète, quelles sont les activités menées pour marquer d'une pierre blanche cette célébration-là?
Une journée de réflexion avec certains auteurs illustrateurs pour nous poser des questions. Sommes-nous toujours sur notre trajectoire, comme on l'a défini à la base, c'est-à-dire des personnes qui créent au service de l'enfant tout court, mais à partir du patrimoine et des données culturelles de chez nous, d'Afrique et du Bénin.
Alors, Béatrice, vous êtes dans le milieu depuis bien des années. Vous avez plusieurs livres à votre actif. Dites-nous, comment se porte la littérature jeunesse au Bénin?
Vu sous un angle, la littérature jeunesse au Bénin se porte à souhait. Il y a environ 40 ans, quand nous avons pris le chemin, précurseur et ouvrant les voies, on était seuls, comme la voix qui crie dans le désert, dirait l'autre. Et la littérature jeunesse était peu considérée. Aujourd'hui, quand nous faisons le bilan, nous avons donné vie à plusieurs enfants. Il y a des jeunes qui se sont lancés dans la littérature jeunesse, que ce soit en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur ou en tant qu'illustrateur. Et au niveau de l'Afrique, la maison d'édition Ruisseau d'Afrique est citée comme une référence en matière de littérature jeunesse. Donc c'est une fierté pour le Bénin. Donc, c'est vu sous ce angle-là, pour nous, c'est une joie. C'est comme si, petit à petit, le petit ruisseau a vraiment engendré des grandes rivières.
Alors, vous appesantissez sur le nombre, aujourd'hui, que nous avons dans le milieu. Est-ce que le nombre nous permet vraiment de dire que cette littérature se porte bien? Ou vous n'avez pas un regard sur la qualité des œuvres mise à la disposition des tout-petits?
Oui, je disais, je prends sous un angle. On peut prendre sous cet angle-là de la qualité. Vous savez, lorsqu'on a commencé ce parcours, la littérature jeunesse n'était pas considérée comme un produit culturel utile pour les enfants. Et on est rendu aujourd'hui à la réalité que le monde international, c'est-à-dire l'UNESCO, l'AFD, des grandes agences comme l'Institut français reconnaissent que la littérature jeunesse est une ressource éducative de premier plan. C'est-à-dire qu'on ne saurait continuer de former les enfants avec les prescriptions scolaires sans leur ouvrir à côté, de manière simultanée, des espaces de loisirs offerts par le livre jeunesse. Et donc le livre jeunesse a monté en qualité, en pluralité de thèmes, et offre aujourd'hui aux enfants, depuis le berceau, l'espace qu'il faut pour que son imaginaire se balade, qu'il rêve et qu'il se projette, qu'il s'identifie et qu'il grandisse aussi en estime de soi, ce qui fait partie de nos finalités.
Alors, vous avez une appétence particulière pour les livres pour enfants, on l'a constaté. Est-ce une manière de dire que les adultes ne lisent pas?
Comme on dit chez nous, c'est l'eau qui va préparer à la consommation de la boisson. Et donc, si l'enfant, alors qu'il n'a pas encore pris goût à d'autres fibres, à d'autres espèces, à d'autres substances, on lui donne son lait maternel culturel, on lui permet de grandir dans ses racines personnelles. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis formatrice en relations humaines et ce qui est important dans ma vie, c'est que le déclic vers le livre jeunesse s'est fait à un moment où j'ai conscientisé qu'en fait, il y a 30-40 ans, il n'y avait absolument pas de livre qui véhiculait auprès de nos enfants une littérature qui porte les marques de notre environnement culturel, social, etc. Mais dès le berceau, dès la maternelle, c'était des cahiers d'activité, c'était des ouvrages de littérature jeunesse qui proposaient ou qui imposaient à nos enfants de la littérature venue d'ailleurs. Et donc, je suis très active, oui, parce que la construction de la personne commence là. C'est déjà dès le berceau, qu'on propose à l'enfant des thématiques, des images, des environnements, des imaginaires qui lui font voir que le Bénin, l'Afrique, est aussi un espace de qualité, un environnement à considérer, à aimer et à développer. Parce qu'on ne développe pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, ni vu ni connu, notre combat, c'est de faire voir, c'est de faire connaître, c'est de faire aimer. Pour que les enfants qui se lèvent béninois, africains aiment l'Afrique et développent l'Afrique. Et on voit que ça a apporté, il y a des thématiques sur l'identité de l'Africain, à partir de qui nous sommes, la couleur de la peau, la nature de nos cheveux, qui, il y a 30 ans, n'avait pas de sens. Parce que ce qui était important, c'est d'être assimilé. Et aujourd'hui, quand nous prenons du recul, nous voyons qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui se demandent, mais tiens, pourquoi je suis béninois, béninoise, et que je vais avoir une tête, une peau de quelqu'un qui habite de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Et donc, c'est ce combat pour donner, dès le départ, le sens des choses. Pour que l'individu, la personne, se construise à partir de ses racines, de sa culture. Et ça fait partie de l'identité de soi.
Alors, cette année, cette édition 2026, la Journée internationale du livre pour enfants a pour thème des animaux fantastiques. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là pour quelqu'un qui n'est pas du milieu?
Voilà. Dans les contes traditionnels, dans nos chants, dans nos comptines, vous allez voir qu'il y a beaucoup de place laissée aux animaux. Parce que les animaux sont utilisés pratiquement dans toutes les cultures. Et je crois que c'est la sagesse qui, le long des millénaires, a instruit les humains ainsi. Et les animaux sont utilisés pour communiquer, pour dire ce que l'on voudrait dire, qui est difficile, pour essayer de décentrer un sujet qui est typiquement humain et de le transporter dans le monde des animaux, parce que justement, c'est là qu'on veut parler davantage aux humains, en mettant sous leur nez leur vécu avec une mise en scène à l'aide des animaux. Alors, les animaux fantastiques, eux, ils vont venir rajouter une dimension du fabuleux, de la magie, du rêve. Et c'est toute une création. On peut créer des personnages de toutes pièces. On peut utiliser des personnages déjà connus et les mettre à d'autres fins en leur ajoutant des caractéristiques. Donc cela tient de la forme de l'animal. Est-il naturel ou surnaturel? Et une fois qu'il a été créé, peut-être en combinant plusieurs animaux, cela tient après des pouvoirs qu'on va lui donner.
Alors, vous passez des nuits intranquilles pour produire des tests que vous mettez à la disposition du Gotha, de la littérature béninoise. Vous avez écrit par exemple « Chevaux fabuleux » paru en 1998 aux éditions Ruisseaux d'Afrique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, quels sont les animaux fantastiques les plus populaires dans la littérature jeunesse au Bénin, voire en Afrique?
Oui. Au Bénin, on peut compter déjà les chevaux. Dans « Chevaux fabuleux », qui est un ouvrage au programme en classe de 6e actuellement, les chevaux jouent un rôle très important parce qu'ils viennent dans le destin, c'est un recueil de deux contes. Dans le destin, ils viennent en adjuvant pour aider le héros principal à aller au bout de sa mission, à accomplir ce que le jeune lecteur voudrait tant qu'il réussisse. Et par identification à ce héros qui est Seton, diminutif de Seton Di, l'enfant, le lecteur se laisse porter aussi par les chevaux pour aller loin, 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 monter les marches du royaume d'Alada et aller à la conquête, réussir et atteindre son but. Donc les chevaux, ça porte les chevaux, rien que dans leur nature d'animal pouvant porter l'homme dans les courses, dans les montées, dans les combats et autres, porte une charge affective très importante. Et dans le second conte, les jumeaux et le mystérieux dragon, et les chevaux sont ici des animaux de combat utilisés par les chevaux pour vaincre un dragon. Dragon qui est lui aussi un animal fantastique. Selon les régions du monde, on va lui prêter plusieurs sens. Selon qu'il crache du feu, qu'il a un certain nombre de cornes, qu'il est dragon juste ou qu'il est un dragon hybride avec des dimensions de dinosaures, etc. La créativité de l'auteur va lui donner des pouvoirs. Et donc ce dragon-ci, lui, il a le pouvoir de se disloquer et de donner à manger aux membres de son corps. Ça, c'est un élément de la mythologie africaine béninoise.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure des contes. Dites-nous, comment les animaux fantastiques sont-ils représentés dans les contes de fées traditionnels?
On les représente comme des êtres à pouvoir. Ils parlent et les choses adviennent. Ils peuvent transformer le destin de quelqu'un. Ils interviennent dans la nuit. Ils peuvent dire « coupe un peu de la queue de mon cheval et quand tu es dans la difficulté, appelle-moi ». Un aigle dont qu'on a investi de pouvoir est capable de voler, d'aller au-dessus des monts et des veaux et d'aller attraper un enfant pour venir rendre service à quelqu'un qui a besoin illico presto d'un enfant dans sa vie. Donc on va les doter de pouvoir et les envoyer en mission. Et on a aussi des animaux, des êtres fantastiques. On ne sait pas s'ils sont des animaux ou non, comme Yogbo, par exemple. Yogbo a une dimension de quelqu'un qui engloutit tout, avale tout, mais ne réussit jamais à être rassasié. Et on va l'utiliser chaque fois que, dans le conte, il arrive un moment où on voudra qu'on fasse intervenir cette dimension-là, qu'on voudrait attirer l'attention de l'enfant à éviter, comme la gourmandise excessive, le fait d'être cupide, etc., etc. Donc on a plusieurs. Et si nous sortons un peu du Bénin, il y a un livre magnifique illustré par un des nôtres. Elle s'appelle Stelvana, mais elle a épousé Amegangpoué et elle a dessiné la légende du Ouagadou. C'est un serpent immense qui parle de cette légende avec les détails du documentaire et c'est très beau.
Et on miroite tout ça aux enfants, un serpent immense. Vous ne pensez pas que ça fait peur là?
Celui-ci, il est tellement magnifiquement dessiné qu'on oublie que c'est un serpent, qu'il a un venin, etc. Parce que la légende veut dire que ce serpent a rendu service. Il y a beaucoup de serpents dans les contes et légendes qui vont faire du négatif. Mais vous voyez par exemple que lorsque vous lisez Zinsou et Sagbo de Hector Sonon au temple Python, le Python est un serpent aussi, mais on va lui attribuer là une mission positive, même de totem ou de fondateur de toute une ethnie, etc. Et dans ce livre, c'est que les enfants vont chercher à protéger cet animal-là.
Alors, vous l'avez brossé, mais je vais rapidement revenir là-dessus. Et quel est le rôle des animaux fantastiques les plus emblématiques de la littérature jeunesse béninoise?
Vous avez par exemple, lorsqu'on considère les licornes, lorsqu'on investit les dinosaures, mais il y a plein d'animaux que l'on va co-créer qui n'ont même pas de nom. Ils ont le nom que l'auteur a bien voulu leur donner en ce moment-là. Donc on ne va pas tous les citer. Vous regardez par exemple dans Harry Potter, vous avez des animaux fantastiques. Et on évolue dans un environnement où se mêle la beauté, quelque chose de très magnifique. Et on va inviter l'enfant à rêver, s'éclater et aller au-delà du possible. L'enfant va briser les frontières du possible. Généralement, quand nous rêvons, nous restons dans les limites du possible. Mmh. Le fantastique nous dit qu'au-delà, l'enfant peut se projeter plus loin. Donc ça favorise une projection de soi. Et l'enfant peut découvrir des puissances intrinsèques, c'est-à-dire des choses, des capacités, des potentialités qui lui sont propres, parce que progressivement, il s'est identifié à un héros qui est un animal fantastique. Et l'animal fantastique, les animaux fantastiques permettent aussi de marquer dans les caractères des enfants, de marquer ce qui peut être un trait de personnalité. Lorsque vous lisez un livre comme Yakuba, par exemple, dans le livre, c'est une tradition africaine. Comme chez nous, on fait des rites initiatiques, lorsqu'on veut savoir si vous êtes affranchi, si vous avez quitté votre état d'adolescent, de jeune, et que vous entrez dans le monde des adultes, on vous envoie faire la chasse. Alors, vous devez revenir avec un trophée, avec quelque chose.
Pour affirmer.
Que se passe-t-il quand vous arrivez là-bas et que vous découvrez un lion qui est déjà blessé? C'est ça le pouvoir de la littérature jeunesse. J'arrive là, le lion est déjà blessé, je n'ai qu'à couper sa queue pour revenir avec au village et montrer que je suis fort, que je suis, je suis gagnant, que comme tout le monde, j'ai aussi tué un lion.
Alors, vous avez là
Mais ce héros, lui, il choisit de ne pas revenir avec la queue du lion, mais de soigner ce lion, de prendre soin de ce lion et de paraître aux yeux des siens comme quelqu'un qui est incapable. Mais en fait, c'est une force de caractère. Et quand je parlais de l'identification du lecteur à ce personnage, c'est la leçon du non-conformisme. Ce qui est le plus important dans la vie, ce n'est pas de répondre aux attentes des autres. Les attentes des autres, les sollicitations des autres, c'est quelque chose. Mais le plus fort qui fait ton destin et qui fait ta vie, c'est ce qui te tient dans les tripes. Alors si tu n'as pas envie de le tuer et qu'il est achevé, et que tu décides de le protéger, protège-le. Même si tu vas apparaître aux yeux des tiens comme quelqu'un qui est faible. Et en posant ce tact-là, il va réconcilier sa communauté avec la communauté des lions qui créait des ravages.
Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur votre émission La Vigue Littéraire. À présent, une pause s'impose. Écoutez. Retour en studio pour continuer nos échanges. Les animaux fantastiques dans la littérature jeunesse est le plat de résistance de ce numéro de votre émission La Vigue Littéraire. Béatrice docteur Béatrice Lalinogbado est notre invitée, elle n'est plus à présenter. Elle est spécialisée dans la littérature jeunesse. Alors, docteur Béatrice, et quels sont les thèmes les plus courants associés aux animaux fantastiques dans la littérature jeunesse?
Alors, comme thème courant, on peut retrouver l'amitié, la fidélité, le bonheur, le courage, la chance, le hasard. On retrouve aussi les questions d'attachement ou de séparation, et l'empathie, la compassion. Et lorsqu'on va dans les documentaires, on va retrouver la découverte de l'autre, la découverte de l'inconnu. Et dans les documentaires, on va prendre l'animal, le présenter à l'enfant, et ça peut être un animal fantastique doté de pouvoir. Il y a aussi le thème du pouvoir, de la puissance, c'est-à-dire la puissance de faire advenir des choses, que ce soit des choses positives ou des choses maléfiques.
Alors, comment les illustrations contribuent-elles à la représentation des animaux fantastiques dans les livres pour enfants?
C'est des illustrations très très chargées, avec des détails et des illustrations qui sont fortes. Et on donne à ces illustrations des cahiers de charges qui sont des cahiers de charges très importants. Presque parfois, on dirait que c'est une photo. Parfois, certains vont insister sur le 3D, le volume. Et parce qu'on voudrait que dans la dimension de consolateur ou dans la dimension de confident, on ait la sensation que l'enfant est vraiment avec un être de chair, que la représentation se valorise ces éléments-là. Et vous savez, les animaux fantastiques ont un effet juste dans nos maisons parce que dans la capacité que l'on a aujourd'hui à céder les droits pour faire des objets à partir des animaux fantastiques, ou des héros de livres, il y a des animaux fantastiques qui vont être transformés après en objets de compagnie pour les enfants. Et pour l'enfant, ça joue un rôle qui est un rôle très important au niveau psycho-affectif, parce qu'il va s'attacher à cet animal et va la voir comme en présentiel ou dans son berceau ou dans sa chambre, etc. Et donc là, on va investir ces animaux-là de vie, d'animal de compagnie, bien qu'il ne soit pas dans la maison en chair et en os. Un dragon ne peut pas habiter chez nous, mais on va le représenter. Et ça va être le dragon qui tient compagnie à l'enfant.
Alors, vous écrivez depuis longtemps, vous avez plusieurs livres dans votre catalogue. Quels sont les animaux fantastiques les plus aimés des enfants dans la littérature jeunesse?
Il y a la tortue. La tortue, elle est vue et revue sous plusieurs angles.
Ah bon?
Sous l'angle de la tortue que nous connaissons, qui dure plus sur terre que l'homme, etc. Mm-hmm. C'est quelque chose de très familier déjà. Mais on va investir la tortue après de missions, de formes, vous savez, dans la couleur, la taille. Quand je vous parle de tortue, vous voyez un peu dans les dessins animés, les bandes dessinées et autres, c'est un personnage qui va, qui revient et qui est toujours plébiscité par les enfants. Parce qu'il y a une sagesse, il y a une douceur, et puis l'illustrateur peut se permettre de lui donner la forme. Ça peut être juste deux, trois petits traits et c'est fait. Et après, vous avez le lièvre, le lapin. Ce n'est pas des animaux puissants, mais qui ont une capacité de faire jouer ou de jouer des tours aux autres. Et c'est là la question du pouvoir, la question de la puissance. On a déjà parlé des chevaux. Après, vous avez les génies. Les génies, parfois, sont représentés sous forme d'animal. Et cet animal, il n'a pas de nom, en fait. Mais on dit que c'est un génie bienfaisant. Il y a la sécheresse, il intervient, et puis voilà, tout change. Et plus loin, on peut avoir, par exemple, le lion dans certaines histoires. Mmh. On peut avoir aussi des fées, c'est pas très bien de chez nous. Mais on a aussi parfois les serpents, on en a parlé tout à l'heure, qui ont une charge liée à la culture qui est une charge très importante. Ailleurs, nous avons les licornes qui ont aussi cette charge-là. Mmh. Tout illustrateur ou tout auteur peut décider de prendre n'importe quel animal, de le transformer en lui combinant un autre, et de lui donner des pouvoirs. Et à partir de ce moment, il devient un animal fantastique.
Alors, nous sommes en train d'amorcer le dernier virage. Dites-nous quelques mots pour conclure cet entretien. Le temps est vite passé.
Eh oui, le temps est vite passé, je me demandais. Alors, les animaux fantastiques, c'est très important. Et c'est important que dans notre culture à nous et dans les publications que nous faisons, on fasse attention à ce que l'imaginaire, tout ce qui est de la mythologie africaine, c'est-à-dire au niveau des légendes, au niveau de nos mythes et au niveau des récits à fort pouvoir, que nous puissions les représenter, les transmettre à nos enfants. Donc, quand je vous parlais de la réflexion durant cette journée du 2 avril, ça a été chez nous, mais comment on va de mieux en mieux rendre compte de ces réalités de chez nous pour qu'ils traversent le Bénin, l'Afrique et aillent plus loin.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers passionnés des mots et des belles lettres. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission La Vigue littéraire, dont le thème est les animaux fantastiques dans la littérature jeunesse. Ce sont justement des créatures fascinantes qui transportent les enfants dans des mondes imaginaires et les aident à développer leur imagination et leur créativité. Et avant de mettre un terme à ce numéro, il me plaît de partager cette citation de l'écrivain français Victor Hugo. Je cite « Un enfant qui lit est un adulte qui pense. Quant à moi, je dirai à mon tour, le livre Un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur. Jidas Beyanzin Awagbe, Jean-Marie Arotondi, Franklin Guignon, Christelle Abahi et moi-même vous remercions de votre écoute. Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l'actualité éducative en continu. Jidas Beyanzin Awagbe a assuré la manipulation technique. La coordination éditoriale a reçu le cachet de Ulrich Vital Arotondi. Au micro, je suis Enoch Guidimé. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission La Vigue littéraire. Comme on le dit en fond et d'abord.
La Vigue littéraire.
La Vigue littéraire. La Vigue littéraire, c'est un espace d'échange et de partage d'expériences
avec un acteur du monde de la littérature.
La Vigue littéraire,
c'est sur la web radio
Éduc Action.